et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
2. Un fan de pur et dur des Bruins de Boston vient d'entrer en studio et le prochain match du Canadien, c'est contre les Bruins de Boston sans Brad Marchand. Qu'est-ce qui reste aux Bruins? Qu'est-ce qui reste aux Bruins? Hier, ça me faisait mal au cœur de voir Brad Marchand avec une autre équipe. Là.
C'est tough, hein?
Je peux te le dire. C'est vraiment tough. On dirait que c'est pas naturel. Ce gars-là était le cœur et l'âme des Bruins de Boston avec Patrice Bergeron, Monsieur Hockey. Puis depuis que les deux sont partis, on dirait que j'ai plus d'intérêt. Quand je vois un match des Bruins, plus d'intérêt à regarder ça.
Je pense qu'on est nombreux, les partisans des Bruins, à vivre nos bonheurs par procuration là, à ce temps-ci de l'année. Tu sais, je regardais mes boys triper sur Suzuki hier, puis la fin de match spectaculaire du Canadien. Puis je me rappelais mon bon vieux temps. Là. J'ai même texté Pierre-Aude après la game pour lui dire « Hey, vive le sport! »
Ma parole!
Il a aussi vraiment juste écrit « Vive le sport! »
Oui, j'ai dit « Vive le sport! » Puis après ça, on a échangé quelques textos, puis je disais « De voir mes kids triper sur Caulfield puis Suzuki, ça me rappelle vraiment quand j'avais leur âge, puis que je tripais sur Claude Lemieux, sur Stéphane Richer, sur Mats Naslund, Bobby Smith. La Coupe Stanley de 86, l'avant-dernière du Canadien. Là.
Non, il y a vraiment du potentiel chez le Canadien, puis là, on est dans la course aux séries, puis de voir le capitaine du Canadien de Montréal prendre les choses en main,
stepper up,
faire le but égalisateur. Lane Hudson, qui est la recrue de l'année dans la Ligue nationale de hockey, qui a fait quoi, 3-4 passes hier de mémoire, puis après ça, ben, le wraparound du capitaine qui s'en va la mettre directement dedans en période de temps supplémentaire. C'était de toute beauté.
De toute beauté, puis tu sens l'énergie dans l'aréna, puis même dans les entrevues d'après-match, là, c'est rendu un événement, le monde reste, puis pour acclamer le capitaine et tout ça, c'est des... Je vais leur dire, vive le sport, ça fait du bien. Ouais. On est d'une période d'incertitude économique. On est dans un hiver qui s'étire, fait fret. On est rendu dans le milieu d'avril. Bon, le début, j'exagère. Mais ça fait du bien à ce stade-ci d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher. Puis suivre l'histoire du Canadien qui se bat pour garder sa place en série.
Oui. Puis le coach du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis, c'est un gars qui est très antipathique, là, surtout envers les journalistes qui l'ont couvert pendant des décennies et des décennies. Mais là, je trouve qu'il commence à s'ouvrir peut-être un peu plus. Là, avec la course aux séries et tout ça, hier, il est resté sur le banc pour voir ses gars célébrer. Puis il était vraiment heureux de ça parce qu'il a tout le temps été un gars un peu plus réservé. Quand le journaliste posait des questions que lui jugeait que c'était des questions, il était complètement... inapproprié pour la journée. Il disait « Moi, je me concentre sur la game! » Puis il crissait son camp. Un peu un personnage antipathique, mais là, je vois qu'il commence à triper. Là.
Puis je trouve ça le fun aussi de voir la couverture de l'extérieur de Montréal. C'est le talk of the town, présentement, dans la Ligue nationale de hockey, c'est le Canadien de Montréal.
Ouais.
C'est de voir ce qui se passe avec cette équipe-là, de la façon avec laquelle ils gagnent des matchs. Les séries du Canadien, je ne sais pas s'il va en avoir, mais les séries sont commencées. Les matchs de séries du Canadien sont commencés. Puis hier, c'en était un. C'en était un. Puis contre une grosse équipe, les Panthers ont gagné la Coupe Stanley l'an passé. Mm-hmm. Je comprends que tous les éléments ne sont pas revenus. Je comprends que c'était le deuxième gardien hier. Le Canadien a gagné, tabarnouche.
Exact, exact. Hey, j'ai fait ma petite tournée ce matin quand je me suis levé. Je regardais un peu ce qui se passait dans l'actualité. Puis tout au long des heures qui vont se succéder, ça va être Donald Trump, les tarifs. Hey,
bonne journée de la libération, tout le monde.
Ça n'en finira plus.
Puis j'essaie de trouver des bonnes nouvelles au travers de ça concernant les tarifs. Une des bonnes nouvelles, c'est que le panier d'épicerie n'augmentera pas autant qu'on aurait peut-être pu le penser avec les contre-tarifs qui pourraient être mis en place par Ottawa pour essayer de dire aux Américains, ben OK, vous nous mettez des tarifs de l'autre bord pour vos Américains, ben notre bord, on va mettre des contre-tarifs pour nos Canadiens, mais pour la petite famille qui essaie de nourrir les enfants, c'était pas de bon augure. Ben là, aujourd'hui, on nous dit que selon les rumeurs qui circulent, Mark Carney pourrait ne pas appliquer de contre-tarifs sur le panier d'épicerie, donc des produits qui viennent des États-Unis. Je trouve que c'est une excellente décision.
On ramasse des grenailles de bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est pas que la facture ne montera pas. C'est qu'elle va monter, mais moins que prévu.
Quand elle est déjà dans le top.
Ah, c'est ça, exact.
Le jus d'orange à 20$, tu veux pas ça.
Non, mais il était juste à 17. Fait que c'est
pas... Non, mais c'est pas facile.
Mais c'est à eux qu'il faut penser. Les politiciens, ils n'auront jamais cette... Des fois, on a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés du vrai monde. T'as l'impression que tu les vois jamais chez Métro, chez Jean Coutu. Ils vivent pas la même affaire que toi. Puis là, ben, on va appliquer des contre-tarifs, mais le gars qui est seul, ou la fille qui est seule, ou la mère monoparentale ou le père monoparental qui travaille à 20 $ de l'heure, lui, il regarde la nouvelle pas de la même façon que les politiciens regardent la nouvelle. Il disait, moi, mon épicerie, j'ai déjà de la misère à payer, nourrir mes enfants convenablement, faut que j'aille à la boucherie généreuse. Puis là, on me dit, contre-tarif pour faire chier Trump, mais dans le fond, c'est moi que tu fais chier, puis mes enfants. Là.
C'est ça, il y a des budgets qui ont été refaits dans les derniers mois par bien du monde. C'est quand le rôle de l'évaluation foncière monte à Québec, il y en a beaucoup juste avec ça qui ont été obligés de refaire leur budget.
Mais c'est parce que c'est des milliers de différences pour certaines personnes. Moi, ça me fascine.
Puis ça va pour les propriétaires de résidences, mais ça va aussi pour les locataires. On le voit parce que c'est une chaîne qui fait en sorte que ça entraîne des hausses à tous les niveaux. Fait que le locataire encaisse, le propriétaire encaisse aussi. Puis là, quand en même temps que tout ça, ben t'as ta facture d'épicerie qui monte, t'as l'inflation qui fait monter les affaires, puis t'as la journée de la libération qui va faire en sorte qu'encore une fois, on va manger une claque dans le côté.
Puis si tu veux prendre des solutions, maintenant tu dis « Ah, mon logement est rendu qui coûte trop cher, OK? Ouais. Ben, je vais essayer de déménager, je vais déménager en région. » Ben là, ta facture d'essence, elle augmente quand même aussi. Oui. Après ça, il faut que tu trouves une nouvelle garderie autre, déjà extrêmement difficile. Là, tu dis « Bon, ben je vais changer de logement dans ce cas-ci. Je vais peut-être trouver un logement plus petit ou qui coûte moins cher dans un endroit de la ville. Qui est... » Mais là, tu regardes, pénurie de logement. Tu sais, les solutions, même si tu y réfléchis...
Je lisais...
Le droit à l'accès à la propriété extrêmement cher aussi.
Je lisais un texte dans la presse hier sur le fait que plus que jamais, les électeurs canadiens étaient mêlés puis qu'ils faisaient pas nécessairement le lien entre les enjeux de la guerre tarifaire, de l'avenir du pays versus... juste la misère à arriver semaine après semaine. Mmh. T'sais.
Pour des gens qui travaillent 40 heures semaine.
Parce qu'il y a des gens qui ont été surpris. Il y a un sondage qui est sorti en début de campagne électorale qui disait qu'il y avait seulement le tiers des Canadiens qui voyaient la guerre des tarifs comme étant la priorité présentement pour choisir le prochain premier ministre. Puis les observateurs nous disent que c'est dur de se transposer dans cet enjeu-là quand toi, ton enjeu, c'est d'arriver à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque paye. Fait que ça fait en sorte que présentement, il y a des questions qui se posent pas d'habitude pendant une campagne électorale. T'sais, ceux qui font une campagne électorale comme on fait une campagne électorale habituellement vont probablement perdre des votes. Là. Mmh. T'sais, avec les mêmes promesses que d'habitude, les mêmes phrases que d'habitude. Les électeurs ont besoin de se faire rassurer, puis pas juste au niveau international avec Trump. Ils ont besoin de se faire rassurer à petite semaine sur ça va être quoi leur réalité économique à eux autres dans la prochaine année.
Exactement. On demandait aux gens, les gars, de revoir leurs dépenses, de pas vivre au-dessus de leurs moyens, mais je pense que là, on n'est même plus dans cette façon de faire-là. Puis il y a quelqu'un qui nous dit « Salut Yann, Denis, CV. Même à 40 $ de l'heure, pas d'enfant, une maison. Des rénaux, oui. » J'arrive très, très serré. Je dois travailler le samedi pour essayer de profiter un peu de la vie.
Ouais, tu travailles temps plein. Tu travailles extrêmement fort puis tu as de la misère à arriver. C'est humiliant. Là. C'est très humiliant. Je sais pas si c'est rare que je plug mes affaires, là, mais je vais le plugger parce que je trouve que ça en vaut à peine. Son nom, c'est Yannick Dufresne. Je l'ai reçu ce matin avec Audrey. C'est un professeur de l'Université Laval qui travaille à la Faculté des sciences sociales. Puis lui, il a fondé une coupe de patentes avec ses élèves que je trouve franchement intéressant. C'est des outils pour les électeurs. Okay. Fait que la fameuse boussole électorale de Radio-Canada, c'est lui qui est derrière ça.
Okay.
Qui va peut-être te dire, selon tes goûts, où est-ce que tu es situé sur l'échiquier puis quelle partie va correspondre le plus à tes besoins. Mm-hmm. Après ça, il a créé le Datagotchi. Après ça, il a fait Radar Plus, il a fait Agora Plus, mais le polymètre, je le trouve intéressant. Pour l'instant, c'est pas encore au municipal, mais ça va être au provincial et au fédéral.
C'est quoi?
Ça, c'est toutes les promesses électorales qui ont été faites avant le mandat, qui ont été mises dans le mandat. Puis, on se pose la question, parce qu'à tous les quelques jours, là, on fait une mise à jour. Est-ce que la promesse est en voie d'être
réalisée,
d'être réalisée, ou elle n'a pas été réalisée, ou elle a été réalisée? Puis, c'est tout avec un truc de couleur. C'est super facile à comprendre.
Tu peux-tu rentrer itinérance zéro à Québec là-dedans, par exemple?
Bien, c'est ça, le municipal n'est pas rentré. Mais tu vois les partis qui vous ont fait le plus de promesses. Mettons que là, c'est le Parti libéral qui est au pouvoir.
Bon, prenons-le, le Parti libéral du Canada, vas-y. Justin Trudeau. Là, okay? Lui, bon, il y a 1050 promesses qui avaient été mises de l'avant.
Du stock, hein?
Je sais pas, dans le ratio politique, est-ce que ça en est trop ou pas, mais il y en a 45 % qui ont été réalisés, 26 % qui ont été rompus, ben, partiellement réalisés à 29 % Pour le reste, ben, en suspens ou en voie de réalisation, vous comprenez que c'est sur la glace en ce moment.
Ils sont presque à 50, mais Justin Trudeau est plus là.
C'est quand même juste une promesse réalisée sur deux.
Ouais.
Pendant quoi ça a été deux mandats?
Sur 1000 quelques promesses?
Ouais. 1050.
Ouais. Fait que c'est des outils qui sont vraiment nice pour les électeurs. Puis Audrey Pinchot va vous mettre ça sur les réseaux sociaux dans les prochaines heures. Mais son nom, c'est Yannick Dufresne. C'est sûr.
Quel homme! Puis ouais. Il travaille en ce moment aussi avec... Ben oui.
Ben voyons, calme-toi.
Ben non, mais...
Il ressemble à Pedro Pascal.
Ah, c'est pour ça. OK, je comprends. Ben, quel homme, hein?
Non, mais moi, il m'avait marqué. Il était venu dans Rage Against ce matin, il y a une couple d'années, puis je m'en souviens. Très intelligent. Travaille avec ses élèves aussi.
C'est son intelligence qui l'a marqué.
Pedro Pascal aussi, c'est ce que les filles aiment. C'est
ben,
son intelligence.
Il semble très intelligent émotionnellement, Pedro Pascal, mais en tout cas. Voyons. Mais je travaille avec ses élèves sur un outil aussi pour savoir, selon ta consommation quotidienne, mettons, ton alimentation, si tu fumes, si tu bois ou autre, tu pourras remplir un formulaire dans les années à venir. Puis là, vous comprendrez, c'est pas un médecin, c'est pas une assurance, mais on va pouvoir peut-être voir quelle maladie vous pendent au bout du nez ou encore et au-dessus de votre tête comme une épée de Damoclès. Travaille vraiment très fort. Puis pour terminer avec le polymath, Yannick, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque date, fait qu'on peut revenir peut-être à des idées de projet, à des moments où on s'en va en élection, à des moments où on perd des candidats ou des gens. On voit quand ça a été rompu, dans quel contexte aussi. Ça, c'est intéressant.
Oui. Audrey va nous mettre tous ces outils-là sur la page Facebook de Boulevard. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Fait que si vous ne savez pas pour qui voter au fédéral ou si vous dites hey, « Moi, je suis persuadé que je vote Mark Carney, mais je veux me conforter dans mes idées », tous ces outils-là vont être là. Puis moi, avec la boussole électorale, Denis, il y a de ça des années, j'avais été surpris de où est-ce que je me situais.
Ah ouais?
Oh, oui.
Puis il y a peut-être des gens qui ont justement besoin d'un rebrassage de leur réflexion parce que là, les priorités sont justement pas les mêmes pour cette campagne électorale-là. Ça vaut peut-être la peine de les utiliser. On en a plus, des outils comme ça sont plus accessibles que jamais. Fait que aidons-nous à prendre une décision éclairée. Ouais.
Autre sujet que je voulais aborder avec vous deux, les amis, est-ce que vous avez vu la série Adolescence sur Netflix?
Non. Je l'ai écoutée hier.
Je suis
en train de terminer le quatrième épisode.
C'est des plans séquences, là.
Oui.
Un 45 minutes ou un 50 minutes, c'est filmé en continu du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de coupe.
OK.
Il n'y en a pas. Les performances des acteurs sont juste hallucinantes.
Écoute,
les performances. Le jeune garçon de 12-13 ans
qui est incroyable.
Il est exceptionnel. Mais après ça, moi. Je veux des réflexions là, suite à ça, puis ça va vous faire grandement réfléchir parce que, tu sais, moi, on est des pères de jeunes garçons qui sont les plus vieux sont à peu près proches de son âge à lui. Lui, il commet un meurtre.
Exact.
Puis tu vois la réaction tu vois sa réaction à lui, des intervenants autour de lui, tu vois la réaction de ses parents.
C'est tellement joué de façon normale
que
c'est dur de ne pas s'identifier.
C'est comme s'il y avait une caméra
mais
chez vous.
Mais le contexte, les gars, mettons, un peu plus pour qu'on comprenne.
Le jeune garçon a tué une jeune fille.
Oui.
Au départ, il dit que c'est pas lui, mais tu vois que les policiers s'en vont directement dans sa maison pour aller le chercher.
Un
le
genre de suspense,
dit,
là.
Lâchez mon fils, c'est sûr que c'est pas lui, c'est sûr que c'est pas lui. Puis là, ben, l'histoire se développe tout au long. C'est quatre épisodes, c'est lourd en sacrément.
L'enfer.
Ah, OK.
L'enfer, je suis encore un peu... Pour vrai, je suis encore un peu shaké. Parce que j'ai écouté les quatre épisodes en rafale hier soir, puis je terminais l'épisode 4 ce matin. Puis le premier épisode en particulier, qui se déroule en temps réel à partir du moment où on s'en va arrêter le kid chez eux, tu vois la réaction de sa famille, l'incrédulité, tu les vois retourner au poste de police, comment fonctionne l'identification, l'arrivée d'un avocat, comment la famille est gérée, comment les enquêteurs gèrent ce suspect-là de 13 ans qui est complètement shaké. Mais tout le monde est joué de façon tellement normale et tellement pas exagérée qu'encore une fois, ça nous force à des réflexions. Puis moi, les réflexions que j'ai présentement, c'est jusqu'à quel point je discute de ça avec mes enfants à 9 ans et 11 ans.
Mais
parce que
essentiel.
J'ai le goût d'en parler.
Ouais, moi, oui? je vais leur faire écouter. Je pense que mon plus vieux va être un peu plus alerte que le plus jeune. Le plus jeune va soupirer. Mais le plus vieux, je vais faire écouter ça très certainement.
Oui? Sur quelle langue, mettons? Parce que je vous reviens avec pourquoi je vous pose la question.
Les discussions que tu peux avoir avec tes parents versus les discussions que tu peux avoir avec tes amis, les lectures que tu fais, de ce qu'on comprend. Bon, on parle beaucoup de discours masculiniste, là. je trouve que c'est pas le bon mot. J'espère qu'à un moment donné, ils vont trouver un nom au discours masculiniste, parce que c'est pas nécessairement que du négatif, là. Le masculinisme, comme le féminisme, c'est pas juste positif, il y a un peu de négatif aussi, parce que des fois, ça s'en va dans les exagérations, ouais, et les extrêmes, jusqu'à la haine de la femme ou à la haine de l'homme. Là, tu comprends que nous autres, on débarque des deux côtés, là.
Mais la série joue ça habilement, ouais, parce que c'est facile d'exagérer puis de caricaturer sur un thème comme celui-là, présentement, ouais, là. Tu sais, le kid de 13 ans, c'est pas un Andrew Tate en devenir. C'est non, pas comme ça qu'il est joué.
C'est pas pis caricatural.
Il est pas d'une famille où le père est un misogyne dégueulasse. Au contraire, tu sais, c'est une famille on ne peut plus normale avec un kid qui semble on ne peut plus normal.
C'est le web, et tu as abordé là-dedans, ça tourne, oui, tout autour de, oui, de forums, mm-hmm, ou autre, que c'est sûr.
Ben, t'as le fils...
C'est de l'endoctrinement.
T'as le fils adolescent de l'enquêteur, à un moment donné, qui prend son père à part pour lui dire « Hey, là, je te vois te débattre, puis je vois que tu comprends pas comment ça marche, les commentaires Instagram, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme signification. » Toi, tu vois ça comme des affaires gentilles, mais c'est de l'intimidation que ce kid-là subissait, puis ainsi de suite.
Ah, je le vois, d'où le pourquoi vous voulez avoir une conversation, ouais, avec vos enfants. Tout est là, là, dans ce que vous voulez dire.
C'est parce que c'est des thèmes qui sont, oui, à la mode, mais en même temps, tu vois jusqu'où ça peut mener quand des kids sont soumis à ça, puis ils n'ont pas le recul nécessaire.
Exact. Puis, tu sais, j'en ai parlé avec Pascal, je ne sais pas si c'est en onde ou hors d'onde, mais mes gars, ils suivent des YouTubers. Il y a des YouTubers qui sont très positifs pour mes gars, très honnêtement. Je pensais jamais dire ça, là. Celui qui a monté l'Everest, là.
Kaizen? Non, ça, c'est le nom du film.
Mais il y en a un, bref, qui, ouais, qui commence à montrer qu'il joue aux échecs. Fait que là, mes deux gars jouent aux échecs.
C'est
fait
bon,
que là,
ça,
ils commencent à triper sur ce YouTuber-là, puis ils montrent des stratégies pour...
C'est Noctag?
Oui, c'est Noctag.
C'est Noctag. Bon, ouais, fait que je le trouve très cool pour mes enfants. Mais il y en a d'autres, puis là, je vais le dire, parce que j'en parle souvent, c'est des YouTubers marocains qui ont des façons de parler qui sont peut-être plus acceptées ici au Québec. C'est ma femme va faire ci, ma femme
possession,
va faire ça.
Un peu culturellement, contraignant. Là,
c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'eux autres, tu sais, ma femme, ça a la même signification que moi, ma femme, ma possession. Mmh. Tu,
oui,
comprends?
Ouais, ouais.
Mais là, j'ai entendu mon gars, mon plus jeune, dire ça. Tu sais, quand je vais avoir ma femme, je vais faire ça. Là, il y a 8 ans.
Non, ouais, je fais bien de pas juste rire.
Là, je dis, ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, ma femme. Fait que là, il dit, ma femme, là, ça veut dire que ça va être ma femme. Non, mais elle t'appartiendra jamais. Là. Ça va être ton... Ça va être ta
partenaire.
Ton ami avec lequel tu vas développer une relation amoureuse, égal à égal. Puis tu sais, il est pas encore rendu là dans ses pensées, mais juste le vocabulaire m'a agacé.
Mais l'inconscient...
Fait que je suis intervenu.
Oui, bravo, parce que l'inconscient là-dedans peut venir du conscient à un moment donné, mais s'il est tout le temps dans la base d'un cerveau, ça se développe quand même en ce sens-là.
C'est des choses que j'ai pas vu venir, ça, en tant que parent. Je pensais tellement que c'était des notions puis des débats qui faisaient partie du passé. T'sais, on aime ça penser qu'on est progressiste puis qu'on n'est pas nécessairement arrivé, mais qu'on a avancé en tant que société. Je pensais que des propos puis des réflexions comme ça, ça pouvait pas gagner de traction en 2024-2025. Oui. Puis là, tu regardes des études qui ont été faites. Je pense que c'est du côté des écoles secondaires, exact, de Montréal. Ça n'a, oui, pas nécessairement été étendu au territoire québécois au grand complet. Mais tu te rends compte qu'il y a un kid sur trois que des pensées masculinistes, ça les rejoint. Tu sais, des phrases du genre « la place d'une femme, c'est dans la cuisine » ou ce genre de choses-là.
Se soumettre au désir des hommes.
Oui.
Donc,
ouais,
ils entendent des jeunes secondaires dire que les femmes devraient se soumettre au désir des hommes. Puis, ce que j'aime, j'aime ça, c'est quand les experts ciblent les religions. Ils,
oui,
ont parlé de la religion musulmane puis la religion chrétienne.
Les gens qui sont plus dans des familles et dans des contextes religieux vont être plus attirés par ce genre de réflexion-là et ce genre de propos-là, c'est dans l'étude.
Puis c'est dans leur structure aussi. Puis, tu sais, je veux dire, on remonte à il y a quelques années. Je veux dire, c'est la religion que l'on connaît, nous, et dans laquelle on a vécu pour la plupart dans notre enfance, qui était contraignante, puis qui écrivait des bibles de comment... Moi, j'en ai plein à la maison, là. Ce que j'aime, c'est aller chercher des vieux livres dans les librairies ou dans des ventes de garage.
T'as plein de bibles à la maison?
Bien, des genres de livres de comment est-ce qu'on doit agir dans le passé,
maintenant. T'habites seul chez vous, puis t'as des bibles?
Si t'arrives chez nous et tu regardes ma bibliothèque...
C'est moins pire qu'avoir 40 chats, là.
C'est pas des bibles, mais si t'arrives dans la bibliothèque, tu peux te poser des questions, mais j'aime ça voir, mettons, la différence à travers les époques. Puis la majorité des livres sont religieux pour ceux qui disaient « Si ton mari arrive du travail, ben là, toi, tu dois être bien mise, tu as mis la maison comme il faut, le repas est prêt, il s'assoit dans le divan, tu dois y enlever les souliers. » Et tout ça est écrit. Et c'était une façon de faire, puis c'était même enseigné à l'école. Ouais. Ben oui, ça part de la religion, c'est intéressant. Puis les gars, on a une question. Je pense que vous avez répondu, mais j'ai envie quand même qu'on y re-réponde. Des gens disent que, bon, elle est un peu controversée, la série. Il y aurait de la propagande haineuse anti-homme. Est-ce que vous l'avez senti, vous? Parce que toi, tu parles du fait que c'est pas caricatural, puis au contraire, c'est léger.
Propagande haineuse anti-homme, non.
Ouais, moi, j'ai pas senti ça.
J'ai trouvé même que c'était sensible. C'est facile de glisser, justement, dans la caricature d'un bord ou de l'autre quand on aborde des sujets comme ceux-là, particulièrement chez les jeunes. Je me suis demandé même, l'épisode à l'école, je pense que c'est l'épisode 2,
on en parle,
je trouvais qu'on commençait à glisser un petit peu, puis finalement, on a tellement bien ramené la barre avec l'épisode 3 où le kid qui est accusé de meurtre est seul avec sa thérapeute.
Non, ça, c'est le moment qui m'a marqué.
C'est hallucinant, mais je trouve que c'est fait de façon très sensible, puis réaliste. T'sais, l'humanité dans tout ça aussi, tu sais, c'est un kid de 13 ans qui est accusé de meurtre, oui, mais de la façon dont on se comporte avec lui au poste de police puis tout ça, je trouve que tout est fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de subtilité.
Vous me donnez
c'est
goût,
pour ça que ça m'appelle.
Vous me donnez le goût, j'ai pas d'enfant, puis il y a quelqu'un qui souligne aussi justement le deuxième épisode dont tu parles à l'école.
Oui.
Pour cet auditeur-là, ce qui a été intéressant, c'est la définition des emojis. Lui, il se doutait pas de ce que ça voulait dire. Il dit, pour moi, ça a été dur de le constater, mais honnêtement, très, très intéressant. Puis il y a eu une conversation clairement avec son enfant par la suite. Puis je vous écoute parler, là. Je fais un parallèle en ce moment. Je suis en train de lire le livre du père d'Alexandre Bissonnette, là, qui a écrit par rapport à l'événement. Puis il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé puis fait réfléchir. Il est écrit à l'intérieur. En tant que père, tu connais beaucoup ton fils, mais en même temps, tu connais très peu.
Mm-hmm.
Puis je vous reviendrai. Je l'ai pas fini. J'ai pas envie de me prononcer tant que j'ai pas fini la dernière page puis je l'ai pas serré, là. Mais j'ai pensé à vous parce que j'en ai pas d'enfant. Puis le plus que tu peux ouvrir le canal de communication avec ton enfant, je pense que le plus tu essaies de le faire. Mais en même temps, pensez-y vous-même, là, Yannick, Denis, moi, il y a plein de choses de nos parents que nos parents savent pas de nous. Puis pas parce qu'on veut le cacher, mais parce que, je veux dire, ça fait partie de notre vie qui est hors la famille. Puis ça doit être extrêmement choquant, comme dans l'émission que vous avez constaté, de voir que des accès que vous aurez jamais, même si vous avez ouvert ce canal de communication-là, tu sais, puis qui peut vous surprendre dans le comportement par la suite.
Moi, le père d'Alexandre Bissonnette m'a perdu à Tout le monde en parle.
Mais allons pas
t'sais,
là,
je
OK?
Je lirai pas son livre en raison de Tout le monde en parle.
J'ai lu le livre jusqu'à la moitié, puis quand j'ai vu l'enligne que ça prenait, j'ai fait non. Moi, je referme ce livre-là, je ne l'ouvre plus.
C'est un peu le malaise que j'ai actuellement.
T'sais, peut-être pour le résumer, parce que j'en avais parlé avec les filles pendant la relâche, j'avais essayé de lire le livre au complet, puis j'ai l'impression que le titre du livre d'Alexandre Bissonnette, du père d'Alexandre Bissonnette, ça aurait pu être « Je vous dis pas que mon fils a fait une tuerie de masse parce qu'il a été intimidé à l'école, mais trois petits points. » Puis je trouve que, justement, c'est faire des liens qui sont risqués. Par contre, si on veut faire un parallèle entre ce livre-là puis la série Adolescence,
pour la
moi, ce que je trouve que ça nous amène, c'est que... Tu sais, il y a une phrase qui dit « ça peut arriver dans les meilleures familles ». C'est peut-être pas la meilleure phrase. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Fait que ça oblige des conversations.
D'ouvrir le canal de communication, d'essayer de comprendre la réalité de l'enfant.
Je sais que le plus vieux chez nous, c'est quoi la série Adolescence sur Netflix? Mm-hmm. Je sais qu'il y a des camarades de classe qui l'ont écouté. Je sais qu'ils ont eu des discussions en classe. Je sais pas si c'est avec la professeure ou entre eux autres. Parce que quand il a vu que j'écoutais ça hier soir, il savait c'était quoi. J'ai dit, ah ben cool, gars, je vais l'écouter, puis après ça, on s'en reparlera.
Tu l'as pas assis avec toi. T'attendais de le finir.
Ouais, ben là, il fallait qu'elle se couche.
Ah, c'est juste à cause de ça.
Rendu à 2h du matin, c'est assez.
C'est ça. C'était peut-être pas bonheur de jaser de
ça. Non, mais c'était tout ça, c'est tout ça un peu la façon dont vous fonctionnez. Vous écoutez quelque chose, puis vous allez voir si après vous l'écoutez avec vos enfants une deuxième fois.
Non. Ben, souvent, moi, c'est la façon dont ça arrive souvent par hasard. Puis là, il arrive, puis là, il commence à s'intéresser à ça. Je dis, veux-tu qu'on l'écoute ensemble? Puis là, ils me disent oui ou non. Puis si c'est oui, je recommence le film au complet.
Pour Alexandre Bissonnette, moi, je pense que la nuance, c'est qu'il est tellement collé, c'est son fils, c'est émotif, puis il y a sûrement quelque chose qui se sent... Écoute, moi, je parle pour lui, mais il doit se sentir coupable un peu. Et toute la différence est là. Tandis que si ça avait été un expert qui aborde le petit filon du « on crée-tu des monstres à certains moments dans une société », on aurait eu plus tendance à écouter et avoir une oreille ouverte peut-être. Sans malaise.
En tant qu'expert de Wish, là, je pense qu'il a bien fait de l'écrire, son livre, ce livre-là, pour essayer de se réparer en tant qu'individu, parce qu'un père qui vit cette tragédie-là avec un de ses enfants, puis qui perd son enfant, puis que son enfant est en prison, tu dois t'en vouloir terriblement.
C'est sûr.
Mais si tu trouves un truc qui va te motiver pour pouvoir essayer de continuer d'aller de l'avant, si c'est écrire un livre, fais-le, do it. Mais moi, je suis juste pas obligé de l'acheter. Il m'a perdu, tout le monde en parle. Puis, avec les informations que j'ai eues avant d'Alexandre Bissonnette, avant qu'il fasse ce crime-là, a fait en sorte que son entourage m'intéresse pas pantoute. Là. Ça m'intéresse, mais pas pantoute.
Le truc qui m'intéresse là-dedans, puis on voit ça beaucoup dans le premier épisode de la série Adolescence, c'est comment tu le vis de l'intérieur. Mm. Est-ce que tu vois venir les choses? Puis dans un cas comme dans l'autre, les parents voient pas venir ça. Là. Je veux dire, leur premier réflexe, dans le cas des parents d'Alexandre Bissonnette, ça a été long avant qu'ils réalisent que c'était leur fils qui était recherché puis qui était
suspect. Ah, puis il veut pas y croire malgré plein d'indices.
Ça a été un très long processus se rendre là parce que le souper d'avant, c'était un souper banal, rempli d'ordinaire.
Faut pas trop vendre de punch, là, mais écoutez-le cette série-là, puis on en reparlera peut-être dans 2-3 semaines, ça vaut la peine. Mais ce que je trouve cool, c'est que c'est les deux, c'est la scène de la psychiatre, là. Qui est avec le jeune de 13 ans qui passe de ange à démon à peu près 20 fois pendant cette scène-là. Puis, la performance de ce jeune acteur-là est exceptionnelle.
C'est hallucinant parce qu'on reconnaît nos enfants un peu là-dedans. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, des fois, ils font des crises.
Oui.
Puis dans ce cas-là précis, il y a quelque chose qui fait tilter l'ado de 13 ans. Puis là, tu vois et tu entrevois la possibilité. OK, c'est un kid qui peut être violent. OK, c'est un kid qui, quand les fils se touchent, ça peut commettre l'irréparable.
Il est capable d'aller là dans sa tête, mais il ne le démontre pas aux parents.
Puis je pense que c'est des conversations qu'on doit avoir à un moment donné avec nos jeunes d'une façon ou d'une autre, de dire on est condamné à devoir contrôler sa colère, contrôler son émotion, prendre du recul, prendre une marche, se trouver des façons de ne pas se ramasser en situation de d'ébullition, tu sais.
Ouais. Owen Cooper, le jeune là, qui joue le personnage
l'acteur
principal.
Ouais, je suis certain qu'il va remporter
15-16 ans, puis les gens le comparent déjà au titre de talent brut de Leonardo DiCaprio.
Ah, facile, oui. C'est toute une performance dans cette série-là.
Dernière chose avec laquelle je voulais jaser avec vous.
Tu veux pas parler de mon cas personnel?
Oui, je veux pas parler de vos cas personnels, mais je vais parler de vos cas personnels.
Est-ce que on a déjà eu des fins de relations difficiles qui ont fait en sorte qu'on a fait des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens? Qu'est-ce qu'il y a, Pascal?
Non.
OK, tu veux pas aller là?
Non, je réponds à ta question.
Moi, je me souviens pas de quelque chose que j'ai fait à une autre personne pour lui souligner que je voulais revenir avec elle si jamais on s'était séparés et tout ça. Je sais que je souffrais en silence. Mm-hmm. Là, dans mon adolescence, quand les relations avec mes blondes du moment se terminaient, je préférais souffrir en silence. Puis quand j'entendais le téléphone, j'espérais tout le temps que ce soit elle. Puis c'était jamais elle. C'était tout le temps une de mes chums poche qui m'appelait pour aller faire de quoi. Fait que mais j'ai jamais fait rien de weird. Il y en a beaucoup qui font des choses weird qu'ils feraient pas en temps normal. Puis dans un article de Radio-Canada, on parle d'une jeune femme qui visiblement acceptait pas sa fin de relation avec un individu. Elle a décidé d'appeler le gars en une journée 250 fois.
Mais quand ça sonne pas, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ça sonnait pas. C'est pas normal.
C'est lourd, hein?
Ta poire.
Puis c'est juste une partie de ce qu'elle a fait.
C'est un pocket call, il paraît.
C'est un dossier bien garni.
Mais l'affaire, c'est que 250 fois, c'est dur de dire que tu l'as pas fait quand l'afficheur te permet de le voir maintenant.
C'est arrivé le 8 mars, puis voyant que... la fille, c'est Audrey-Émilie Dupré-Gilbert. J'imagine que c'est un nom-là. Pour
Yannick
ceux qui la connaissent. Peut-être que les parents aussi étaient un peu fuckés, là, et appelés...
Jugement de valeur, joke plate.
C'est quoi ton nom? Audrey-Émilie Dupré-Gilbert. Là, t'apprends à écrire ton nom comme faux en secondaire 3.
J'ai un ami qui s'appelle Pierre-Hugues Forêt-Lossieur. Il se débrouille très bien, OK?
Il écrit ça au devoir. C'est un beau nom pour écrire
non,
dans le devoir.
C'est un gars en finance à New York.
Mais
ça
bref,
se passe bien.
Audrey-Émilie Dupré-Gilbert, elle a appelé 250 fois l'individu qui l'avait dompé le 8 mars 2021. Puis voyant qu'il ne répondait pas, elle avait décidé de continuer avec des messages à l'écrit. Puis elle a fait parvenir aussi des vidéos dans lesquelles elle découpe plusieurs morceaux de vêtements du gars.
Mais donc... c'est là où que... c'est parce que c'est ça, les appels puis les communications étaient un peu à caractère violent.
Pas à peu près?
Maigrement, mais toi, violent.
Un peu?
Ben là... En tout cas, pour l'instant, tu as juste évoqué les vêtements coupés,
ouais.
Mais tu peux continuer.
Après ça, elle a dit, elle aurait fait quelques jours avant une lacération à la tête de son ex en lui tirant son cellulaire par la tête.
Ça, bon. C'est beaucoup. Lacération, oui, avec lacération, tirer un cellulaire dans la tête de quelqu'un ou n'importe quel objet, c'est beaucoup.
Audrey-Émilie Dupré-Gilbert lui a aussi lancé une bière au visage et l'a empoignée à la gorge.
C'est beaucoup.
Lorsque l'homme a voulu se réfugier dans le garage, excusez-moi, je ris, là, mais c'est ça n'a pas lieu d'être.
Ouais,
là.
Mais mets-toi à sa place au gars. Elle est violente envers lui. Lui, il ne peut pas être violent envers elle. C'est le même genre d'accusation. Il fuit, tu sais.
Donc lui, il est en panique. Il fuit dans le garage, puis elle l'a poursuivi pour y fracasser un autre cellulaire ou le même cellulaire en le jetant au sol.
C'est normal qu'il ne réponde plus ce cellulaire-là en passant. Là.
Elle a appelé aussi en 2019 à 160 reprises sur son lieu de travail.
Oh non!
Wesh.
On lui avait donné à cette époque-là 75 heures de travaux communautaires. Il y en a qui sont, il y en a qui acceptent mal les
Mais c'est une désorganisation totale. Puis c'est là où il faut que tu sois tellement bien entouré. Là. Te ramener à l'essentiel, mais... Il y a beaucoup de gestes là-dedans qui... Ben, là, on est dans l'extrême, là, mais qui auraient pu être freinés avant.
Je te pose une question, OK, Pascal? Si t'es... C'est quoi déjà son nom? Audrey?
J'aimerais ça que tu me poses une question, pas en mettant dans son corps à elle. Là, je veux dire, quand même accusé au criminel, puis une enquête.
En tant que toi, là, Audrey-Émilie Dupré-Gilbert, si tu fais des choses qui n'ont pas de maudit crise de bon sens, tu le racontes-tu à tes chums de filles?
Mais parce que je me rendrai pas là.
Mais non, mais mettons que tu fais ça, là. Mettons que tu appelles ton ex 10 fois en ligne puis tu trouves que c'est épouvantable ce que tu viens de faire là. Tu te confies-tu à tes chums de filles?
Je réponds très honnêtement.
Oui.
Tu connais la fin d'une de mes relations.
Oui.
Tu connais certains comportements que j'ai vécu.
Oui.
OK.
J'avais peur, je surveillais ton nom au palais de justice.
Puis il y a un moment où c'était particulier, tu sais, je vais le dire de même, OK? C'était tellement particulier qu'il y avait tellement d'incompréhension que je pense que j'ai rédigé un livre.
OK, mais est-ce que tu te confiais quand tu faisais des choses qui
n'avaient
pas de bon
sens? Et ça, je l'ai dit à mes amis.
Ouais, tu l'as dit à tes amis.
J'ai dit, cette personne-là va tellement chercher quelque chose qui n'est pas moi, qui est hors de moi, qui est dans un jugement qui n'est pas de ma personne, puis je ne développerai pas, mais ça fait en sorte que j'ai un besoin d'écrire une explication, de dire, ben tu dépasses les bornes, puis ça ne se fait pas, puis tu... Puis ça, la manière dont je l'ai expliqué, ça n'a pas été concis. OK? Puis je l'avais dit à mes amis, j'ai dit, je ne me suis jamais vu écrire quelque chose d'aussi long, mais je sentais le besoin de le faire.
Et que ça devait être long.
Mais sais-tu pourquoi je sentais le besoin de le faire, Yannick? La suite.
C'était ta thérapie.
Mais
en,
pas la
en écrivant,
mienne.
C'était ta thérapie.
Ben, en fait, c'est que ça me redonnait le contrôle sur
exact.
Ma vie.
Ouais.
Puis aussi, ça faisait en sorte que j'espérais, puis après, j'aurais jamais... jamais, jamais la réponse à ça, mais j'espérais que quelqu'un d'autre vive pas ça, mettons.
Mais je pense pas que dans une conversation mondaine, mettons, j'arrive ici pour faire le petit stop, puis avant que les micros s'ouvrent, tu me demandes, « Hey, Gravel, ça va? » »« Oh, oui, ça va, je viens d'appeler mon ex 250 fois, puis de crisser le feu à son linge. »
C'est ça, c'est parce que ces affaires sont intenses, là.
mais c'est ça, parce que là, tu te dis, ce qui est important de ce genre de situation-là difficile avec ton ex, ouais. C'est d'avoir un bon entourage. Elle cachait des choses, là. C'est clair qu'elle disait pas à ses chums de filles ou à ses parents, « Hey, je suis une crise de folle, là, tu sais. »
Ouais, puis regarde, j'en ai vu de proches au fil des années quand une relation s'envenime puis qu'il y a une des deux personnes qui accepte pas le fait que ce soit terminé, ça peut devenir lettre vite. Puis des fois, c'est lettre pendant 5 minutes, des fois, c'est lettre pendant 24 heures, des fois, ça reste lettre longtemps, là.
Il y en a qui l'entretiennent aussi, là. La personne souffrante, mettons, versus la personne qui veut mettre fin à la relation ou autre, qui revient tout le temps, qui se garde un genre de petite place, qui, d'une manière ou d'une autre, va chercher une émotion de contrôle. Ou, tu peux aussi avoir un lien dans la désorganisation de quelqu'un puis une responsabilité. Après, tu n'as aucune responsabilité sur les gestes. Si on prend ce cas-là de cette femme-là, ça n'a aucun maudit de sens. Mais je pense qu'on peut aussi se questionner sur à quel point on garde un lien avec une personne qui est attachée à nous, puis qui, clairement, on alimente quelque chose qui devient négatif, puis qui la désorganise, cette personne-là.
Je pense que tirer sur le plaster raide dans des circonstances de même, là, je pense que c'est la bonne solution.
Je suis d'accord avec toi.
Ça peut devenir toxique.
Je veux pas faire du victim shaming, là, mais le gars qui semblait rester là-dedans, même après toutes ces années, pourquoi il est pas parti?
Ouais, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question qui est importante, là.
Pourquoi tu restes là, tu sais?
Mais quand elle était avec, il l'appelait pas.
Hey, ben, tu sais, c'est là où tu dis la personne a plus de conscience de ses propres gestes, pour apprendre, même pour appeler sur le milieu de travail. Moi, j'ai quelqu'un proche de moi qui a vécu une histoire épouvantable avec un gars, puis toute ma gang de filles et moi, on se mobilisait pour faire comprendre qu'il y avait des affaires même qui nous inquiétaient. Mmh. Puis le gars, même bloqué, il avait trouvé une adresse courriel de job sur laquelle la rejoindre. Tu sais, il y en a qui n'ont pas de barrière, là. Hey, au travail.
Ah, puis t'es obligé d'expliquer ça à tes collègues de travail.
Mais c'est tellement humiliant, là.
Ben, c'est humiliant. En fait, t'es une victime, là.
Oui.
Mais tu dois expliquer ça, puis avoir honte en plus en l'expliquant. Mais en même temps, t'as pas à l'avoir honte. C'est pas toi, cette personne-là, tu sais. Mais c'est malheureusement...
cette femme-là, clairement, a besoin d'aide, là, tu sais, qu'on est tous conscients, là. Puis cette pauvre personne-là, oui, avec qui elle sortait aussi, là.
Je voulais l'aider, mais à chaque fois que je l'appelle, c'est engagé sur son téléphone. Je sais pas pourquoi.
Ah, on est pas drôle. La fille qui disait avoir couché avec Alec Baldwin.
Ah oui.
Eh mon Dieu, oui. Ça
c'était un autre genre de cas. Hein?
Oui, c'était un cas lourd, ça.
C'était Geneviève quelque chose.
Oui, oui.
Puis ça s'est avéré à la toute fin parce que tous les médias du Québec parlaient de son cas. Puis Alec Baldwin dit non, moi, je ne l'ai jamais rencontré.
Elle était Geneviève Sabourin.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Il disait non, non, je ne l'ai jamais rencontré. Puis elle n'est jamais revenue de ça.
Puis mettons qu'on va dans le côté superficiel.
Ouais.
C'était une belle femme. Se tenait bien, puis tout ça.
Elle avait une fascination.
Personne est mais personne semble à l'abri de.
Mais je comprends ce qu'Alec Baldwin peut ressentir.
Avez-vous déjà eu une peine d'amour, vous autres?
Oui, ben oui.
Vous avez jamais fait de trucs bizarres?
Non.
Ah!
Moi, j'ai déjà été méchant, par écrit. Pis,
parce que tu étais blessé, ta réaction?
Oui, ouais. J'ai déjà été un ex d'amour. Ouais.
Ah, moi, ouais, je préférais souffrir en silence.
Comment tu le manifestais, maintenant? C'était des textos puis des messages vocaux?
Ou coucher avec
une autre. Yannick, c'était ça, puis après ça, je sais pas si j'aurais dû se faire.
Méfie-toi quand tu vas me domper là parce que t'as une sœur puis ta mère, elle me fait des clins d'œil. Non, tu peux pas aller là non plus.
T'es-tu okay. Vraiment allé là?
Toxicité.
Fait que tu disais que t'étais méchant?
Ouais, ouais, oui, oui, oui.
J'ai tort là!
Absolument.
Excuse-moi, Denis, j'ai vraiment chaud. Je me suis épivardé. J'ai fait une joke.
Tiens,
tu disais que t'étais méchant?
On a parlé de ça en long et en large. On a fait un podcast sur l'amour avec les filles. Si ça vous intéresse,
oui,
là, je pense qu'on a fait ça quand même assez à livre ouvert et à cœur ouvert. Vous allez pouvoir retrouver ça sur nos services de streaming, ouais, la chaîne YouTube et ainsi de suite. On a parlé de ça beaucoup.
Puis le podcast à Alex Barrette, oublie pas ta brosse à dents, là, quand, ouais, il rencontre plein de monde avec des passés différents, des relations.
Je me suis fait pogner à l'écouter.
Puis il y a des gens vraiment.
Puis elle aimait ça.
Oui. Mais c'est. J'y trouve quand même, tu sais, un peu courageux aussi d'aller là parce que tu vois, tu parles avec ton visage qui va t'appartenir toute ta vie, de relations qui peuvent t'avoir blessé ou de toi, t'as blessé, ouais, quelqu'un là-dedans. Mais dans une confidence totale, moi, je trouve ça courageux parce que je suis sûre que ça aide des gens pour vrai.
C'est sûr.
Mais tu vois que tu peux être une autre personne selon ce qu'on vient de... Puis jamais mettre la faute sur l'autre, dans le sens où tu as agi, toi, avec tes propres comportements, tes propres paroles.
Ouais.
Même si c'est stimulé par quelque chose, la responsabilité te revient. Sauf que tu as aussi la responsabilité de tenter de ne pas te mettre dans des situations comme ça, puis d'être capable de stopper. Mais, ouais, tout le monde est à risque.
Là, des fois, on est irrationnel, mais c'est, ouais, ce podcast-là d'Alexandre Barrette était écœurant. Puis il est encore disponible sur le site blvd.fm. Ouais. Denis, en deux minutes hier, je te parlais justement qu'on voit, je ne sais pas si c'est à toi, je parlais de ça ou à Pascal, mais on voit le fer au travers l'asphalte sur le pont Pierre Laporte.
Oui, 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 on a jasé ensemble.
Nord, direction sud. Donc, si tu es sur le côté nord de la grande région de Québec puis tu t'en vas vers le sud, tu le vois à peu près à six endroits, le fer, le fameux fer, la fameuse membrane qu'ils ont posée, là, est comme bleu turquoise. T'as-tu regardé sur le site de Zone 911 ce qu'ils ont découvert?
Qu'est-ce qu'ils ont vu?
Regarde, ça, c'est le pont Pierre Laporte, là. T'es d'accord avec moi? C'est un article qui est sorti hier sur Zone 911,
oui,
OK? Regarde qu'est-ce qui pend.
C'est quoi, ça?
C'est un fil. Okay. Ça, c'est le fleuve, là.
Uh-huh.
Puis ça, c'est un fil.
Un fil de quoi?
C'est un fil qu'on nous dit...
On l'appelle le présumé câble.
Qui ne sert plus à rien. On dit qu'après vérification, il ne s'agit pas d'un câble porteur,
ici,
mais bien d'un tuyau vide. Si ce n'est pas déjà fait, il sera coupé et récupéré bientôt. Il ne s'agit donc pas d'un élément structural du pont.
Mais bon, si c'est un serpent à rien, pourquoi Martin Carly ne vient pas le chercher?
Qu'est-ce ça? Je veux dire, mettons qu'il y a un bateau de croisière qui passe, là, je pense pas qu'il passe à ce temps-ci de l'année. Là.
Il est raide en plus, là.
Mais il le reçoit carré dans la face.
Ouais, c'est
ça pète
c'est,
une fenêtre.
C'est quand même, c'est long, cette affaire-là.
Tout est rassurant, puis ça, je sais pas c'est quoi, là, mais je voudrais demander peut-être à un électricien, mais il y a un petit fil site de métal qui m'embête un peu.
Au moins, ça tient pas le pont. Hein. Ça rassuré, là.
Et on nous précise et on répète que ça sert plus à rien. Ouais. Mais c'est encore là.
Oui.
Mais ça sert plus à rien.
Mais pourquoi c'est là?
Moi, j'ai l'impression que je vais faire pendouiller quelque chose du pont puis ils vont le chercher en 24 heures.
Là. Tout ce qui pendouille, c'est jamais bon.
Tout ce qui pendouille doit être remonté.
Exact. Midi 41. Merci, Denis.
Salut.
On t'écoute à 14h avec Audrey et Véro. Sinon, après la pause, on a notre chroniqueur politique, analyste politique, Jérémy Guillot, qui va être là, parler de l'analyse, entre autres, d'un sondage qui est sorti concernant le fédéral, les élections qui battent son plein actuellement, puis les tarifs aussi. On vient. Rage against.